Voilà, alors ce soir nous allons parler du tantra. C'est un sujet qui est vaste et qui est tellement méconnu par beaucoup de personnes que c'est intéressant d'approfondir et de donner quelques références à propos du tantra et à propos de comment moi j'anime le tantra, comment moi je le vis, comment moi je le ressens. Alors, pour parler de l'histoire, le tantra, c'est initialement, il y a une dizaine de milliers d'années, dans le nord de l'Inde, des écoles tantriques secrètes ont élaboré un ensemble de méditations très courtes, qui tiennent en une phrase ou deux, pour développer la présence et développer la conscience. Au fur et à mesure des années, ils en ont rajouté et ils sont arrivés à un nombre de 112. Il y a 10 000 ans, ça a commencé, c'était par oral, il n'y avait pas d'écrit. Le tantra n'était pas bien vu du tout, hein, peut-être comme aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça se pratiquait dans le secret et il y avait un maître, des disciples. Les disciples devenaient des maîtres, enseignaient à nouveau à d'autres disciples. 5 000 ans plus tard, les écoles ont commencé à se constituer de manière plus officielle. Et ils ont commencé à écrire les méditations. Hein. Ça a donné un texte. Et ce texte, je l'ai là, il s'appelle Technique d'expansion de la conscience. Donc, je vais vous le montrer dès que je vais le retrouver. Mais ce n'est pas une Bible. Hein. C'est un texte qui est vraiment très court. Normalement, il est là. Je dis bien normalement. Voilà, donc ce texte, il est là, vous voyez, ça pèse pas très lourd, c'est pas une Bible, hein, au niveau du poids. Mais dedans, il y a 112 préceptes, on appelle ça des préceptes, on peut aussi appeler ça des méditations. Chacun de ces préceptes sert à développer la conscience, hein, à être plus conscient, plus présent, plus attentif. En utilisant la respiration, en utilisant les sens, en utilisant le mental, en utilisant des choses corporelles, très simples, hein, corporelles ou psychologiques. Alors, pour vous donner un exemple, la méditation numéro 94 dit ceci en deux phrases. Regarde un objet, puis lentement retire ton regard. Ensuite, retire ta pensée et deviens le réceptacle de la plénitude ineffable. Je vais vous le relire. Regarde un objet, puis lentement retire ton regard. Ensuite, retire ta pensée et deviens le réceptacle de la plénitude ineffable. Alors ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre ou à appréhender, mais en deux phrases, le but, c'est agrandir la conscience grâce à ce précepte-là, c'est-à-dire se désidentifier du monde des objets, pouvoir revenir dans son intériorité complètement. Chaque précepte sert à développer une conscience de plus en plus grande. Hein. Il y en a 112 et normalement chaque précepte peut vous amener à une conscience complètement épanouie. Mais il y en a un qui est, entre guillemets, le vôtre. Hein. Il y en a un qui vous correspondra davantage que les autres parce que on est tous différents et on est tous réceptifs d'une manière différente à ces préceptes. Donc, il y en a un qui vous amènera à ce qu'on appelle l'illumination, mais vous ne savez pas lequel. Pour savoir lequel, il faut essayer, il faut pratiquer. Donc, vous verrez par la suite, si vous continuez le tantra, que peut-être vous aurez envie de vous lancer dans cette exploration de quel précepte va agir pour moi d'une manière profonde jusqu'à atteindre une plénitude totale à l'intérieur de moi. Ça peut se faire juste avec ces deux phrases-là, hein, si c'est les vôtres. Alors, il y a aussi des livres qui commentent ces préceptes parce qu'ils ont été écrits il y a très longtemps et parfois chaque précepte est le résultat d'un approfondissement de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'années. Hein, donc, ce n'est pas forcément évident de les comprendre à la première lecture. Alors, avant d'aller plus loin, je vais poser la question, vous poser la question. Qu'est-ce que la conscience? C'est un mot qui a énormément de définitions. Et comme c'est le sujet principal, je vais faire un mini-sondage ce soir. Si vous avez une idée, quelle qu'elle soit, de qu'est-ce que c'est que la conscience, on va partager juste un peu là-dessus, sans lever la main, sans rien faire de particulier. Vous pouvez dire votre définition de la conscience. Après, je reprendrai la parole. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que la conscience?
Pour moi, c'est quand on est dans le juste milieu.
Quand on est dans le juste milieu, oui. D'autres?
Quand on est dans son corps, on est en soi-même.
Être dans son corps, être soi-même, ok. D'autres idées?
Dans son essence.
Être dans son essence, ok.
Aimer
juste, ok. D'autres?
Présence à ce qui est à soi, présence au vivant.
Présence à soi, au vivant, à ce qui nous entoure, ok. Oui?
C'est ce qu'on expérimente quand il n'y a plus de pensée.
Ce qu'on expérimente lorsqu'il n'y a plus de pensée, d'accord. D'autres, ça peut être juste un mot, hein, si c'est ça qui vous vient.
Être,
ok.
Pour moi, ce serait plus spirituel.
Ça serait spirituel, oui, d'accord. Autre chose, vous pouvez prendre la parole plusieurs fois, hein, même s'il y a des mots autres qui viennent.
C'est vider l'esprit, vider le mental, vider l'esprit pour laisser parler le cœur.
Vider l'esprit pour laisser parler le cœur, ok.
Exprimer son essence,
oui.
Ne pas être identifié à sa personne, mais ses pensées, ses émotions.
Ne pas être identifié à sa personne, ses pensées et ses émotions, oui. Encore quelque chose?
Liberté intérieure.
Liberté intérieure, d'accord. Ok, tout le monde a dit? Ne vous censurez pas, hein, même.
La responsabilité de ses actes.
Responsabilité de ses actes, tu voulais dire?
Savoir vivre en soi.
En soi. Ouais. Savoir vivre en soi, ouais. Parfait.
Le mot infini qui me vient.
Infini, ok, oui. Ok, et puis on pourra affiner ça, hein, tout au cours de la soirée. Le tantra, c'est essentiellement des techniques d'expansion de la conscience. Alors, être conscient, pour moi, c'est se connecter à une essence qui n'est pas le corps, qui n'est pas le mental, qui n'est pas les émotions, qui est une vastitude, qui était là avant la naissance, qui sera là aussi après la mort, et qui gouverne notre vie, sachant que je peux avoir une conscience limitée, je peux avoir une conscience corporelle, je peux avoir une conscience grandissante, hein, et je peux avoir une conscience infinie. C'est pour ça que ces techniques d'expansion de la conscience vise à partir de la conscience initiale qu'on a pour avoir une conscience beaucoup plus vaste. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir une conscience beaucoup plus vaste? Être présent davantage. Hein, par exemple, je suis conscient de ma main droite et si je mets les deux mains, si je mets ma conscience sur ma main droite, c'est comme si elle était plus lourde, c'est comme si elle était plus importante, hein, parce que j'envoie l'énergie dans ma main droite et je la sens davantage. Ça, c'est la conscience corporelle. On peut agrandir la conscience de manière à être présent à nous-mêmes et présent aux autres. Si je suis présent à d'autres à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir des relations paisibles. Parce que si quelqu'un parle et je ne suis pas en train de l'écouter, je peux ensuite sombrer dans la violence parce que je n'ai pas entendu la demande de l'autre. Donc avec la conscience vient la présence, avec la présence vient l'attention, je fais attention à toi, je fais attention à moi. Avec l'attention vient l'amour. Si je suis présent à moi-même, si je suis présent à mes difficultés, si je suis présent à mes qualités, alors je vais être un meilleur ami pour moi-même. Si je peux m'aimer moi-même sans me juger, si je suis à ce point présent que je m'aime, alors c'est facile d'aimer les autres. Ça commence par s'aimer soi-même. Donc avec la conscience vient l'amour de soi, vient aussi l'amour pour les autres. Et comme disait Jean-Claude, il y a une liberté qui peut s'installer et la fin de la dépendance affective. Parce que je suis conscient de ma difficulté, je peux en parler, je peux la traiter, je peux m'en occuper et je peux aussi la dissoudre. Alors, sur le fronton du temple de Delphes, en Grèce, il y avait très longtemps, il y a très longtemps, Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Ça peut parler aussi de la conscience. Si j'ai une conscience très limitée, ben je suis dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les autres, où je peux être dans le jugement, où j'ai pas une vision très vaste de l'univers. Et si ma conscience se développe à ce point, je peux me rendre compte que je suis au niveau conscient d'une grande vastitude, l'univers et les dieux. Ça peut vouloir dire que ma conscience s'étend à tel point qu'elle peut englober tout l'univers, elle peut englober toute l'existence. Alors la conscience, ça peut être défini de beaucoup de manières différentes. Si on regarde Wikipédia, Wikipédia dit que du point de vue de certaines philosophies et de la psychologie, la conscience, c'est une faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs, par exemple sous la forme de sensations, ou intérieurs, les états émotionnels, les pensées, et plus généralement sa propre existence. Donc, d'après Wikipédia et la science, la conscience est mentale. Et d'après la spiritualité, la conscience n'est pas mentale. Donc il y a déjà des points de vue différents. La conscience est-elle dans le cerveau ou le cerveau est-il une antenne pour la conscience? Il y a beaucoup de choses différentes. Alors, le tantra vise à ce que vous soyez plus conscient. Donc, pour être plus conscient, déjà, il est question d'être attentif. Quand j'ai de l'attention, je fais grandir ma conscience. C'est-à-dire, je marche dans la rue, par exemple, je fais attention à où je pose mes pieds. Si je ne fais pas attention, je peux marcher sur une crotte. Si je suis conscient de là où se posent mes pieds, non seulement je vais pas marcher n'importe où, je ne vais pas me blesser en tombant dans un trou, mais je vais peut-être aussi sentir que mes pieds touchent le sol à chaque pas. Cette attention permanente, c'est aussi un aspect de la conscience. Lorsque je suis attentif, il y a quelque chose qui grandit quant aux perceptions intérieures. Hein, je suis attentif à moi-même, je peux être attentif, tiens là j'ai une émotion, ou tiens là je suis dans le désir, ou tiens là je suis dans l'amour. Je vais pouvoir cerner des aspects de moi-même grâce à cette attention. C'est pour ça qu'on peut dire « je suis conscient de ma peur, je suis conscient de mon désir, je suis conscient de ta présence hein. ». On peut aussi dire « je suis présent à hein, », être attentif ou être présent, c'est des termes assez proches. Donc « je prends conscience » ou « j'ai conscience de mes émotions », »,« j'ai conscience de la souffrance dans le monde », ou « j'ai une conscience individuelle » ou « il y a une conscience collective dans cette pièce hein, », il y a quelque chose qui se réunit, ou « il y a une conscience collective dans l'humanité ». La conscience peut prendre des formes et des dimensions très variées. Donc je suis plus présent, c'est la porte à être plus dans l'amour, c'est la porte à être plus dans la liberté. C'est aussi, comme ça a été dit ce soir, être responsable de soi-même, responsable de ses émotions, hein, responsable de son comportement. Si je suis inconscient, je peux être violent sans même m'en rendre compte. Hein, je vais laisser sortir ma violence et je ne vais pas faire attention, pas être présent à ce que l'autre va pouvoir me dire. Mais si je suis conscient et attentif, c'est beaucoup plus difficile d'être violent, parce que je suis présent à ma propre violence. Je sais que ma violence, si elle est là, bah, elle ne concerne pas l'autre, parce qu'elle était là avant que l'autre ne me dise un mot qui me contrarie, et elle sera certainement là aussi après. Hein. Donc, si j'ai de la violence en moi, ma conscience me permet d'en prendre la responsabilité et d'arrêter de dire à l'autre « fais pas ci, fais pas ça, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu as agi comme ça ?» Je deviens responsable. Hein. Quand je deviens responsable, ben, la vie est beaucoup plus pacifique. Parce que oui, j'ai de la violence en moi, ben, je m'en occupe. Hein. Je ne suis pas en train de dire arrête de faire ça parce que ça m'énerve. Hein. Pourquoi je suis énervé ? Bah, y a une raison qui est intérieure à moi-même. À partir de ce moment-là, bah, les relations deviennent beaucoup plus pacifiques. Donc ça commence par être conscient et consciente de ses propres émotions, de ses propres sentiments, de ses propres blessures. Imaginez que j'ai une blessure sur la jambe là et qu'elle est à vif hein, elle vient de se produire. Si quelqu'un met le doigt dessus, je vais hurler hein, cette blessure est très présente. Deux semaines après ça devient une croûte hein. C'est quand même douloureux, mais si on pose juste un doigt dessus, ça fait pas mal. Et puis peut-être 10 ans après ça devient une cicatrice hein. Là c'est plus douloureux du tout. Mais si j'appuie très fort, je vais quand même sentir qu'il y a eu une blessure à cet endroit-là. Donc c'est un peu la même chose avec nos blessures enfantines. Il y a des blessures qui ont été dénombrées, il y en a certainement plus, mais les 5 principales blessures de l'être humain peuvent se résumer dans le mot, pour aide-mémoire, c'est le mot trahi, hein, T-R-A-H-I. C'est facile à retenir parce que c'est trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Hein. La plupart des êtres humains connaissent une ou plusieurs de ces blessures qu'on appelle fondamentales. Donc, si j'étais enfant et que ma mère s'est absentée pendant 3 minutes pour, je ne sais pas, faire une course, si j'étais bébé, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, s'absenter, ma mère n'est pas là, je me sens abandonné. Hein. ou si ma mère ne me donne pas l'amour que j'attends, je peux me sentir rejeté. Ces blessures, c'est comme la blessure à la jambe. Hein. Lorsqu'elles viennent d'arriver, elles sont très douloureuses. Ensuite, elles deviennent un peu moins sensibles. Et après, lorsque je les ai traitées, lorsque je les ai mises en lumière, elles sont sous forme de cicatrices. C'est-à-dire qu'elles disparaissent jamais réellement, mais elles laissent des traces. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour illustrer que si j'ai été abandonné étant enfant, si j'ai été humilié étant enfant, je peux transporter ça pendant de longues années de ma vie, et quand quelqu'un va me dire quelque chose, ça va toucher le rejet en moi, ça va toucher la blessure d'abandon, ou ça va toucher et ça va déclencher la colère, ou ça va déclencher la tristesse, ou ça va déclencher que je me sens pas bien et que je m'en vais. Voilà. Donc la colère, lorsque quelqu'un vous met en colère, vous aviez déjà la colère en vous. Hein. C'est pas possible de se mettre en colère s'il n'y a pas un baril de poudre à l'intérieur qui est prêt à exploser. Il était là avant. C'est-à-dire que la personne qui vous met en colère, elle appuie exactement là où ça fait mal. Si la blessure n'est pas là, ou si c'est juste une cicatrice, elle appuie, ben ça ne fait rien, ça ne vous met pas en colère. Alors qu'une autre personne qui est blessée à un endroit bien précis va rugir, va se mettre hors d'elle, et puis va commencer à juger l'autre et à projeter sa colère sur l'autre. Donc, si vous êtes blessé, vous rentrez en colère. Si vous n'êtes pas blessé, ça vous laisse indifférent. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'autre qui nous met en colère. Nous sommes déjà en colère. L'autre est un déclencheur. L'autre ravive la blessure qui donne lieu à la colère. Voilà. C'est pour vous dire, tout ça pour illustrer que quand je prends conscience de ma blessure de rejet ou d'abandon ou d'injustice, hein, l'injustice et la colère, c'est très proche. Hein, si vous vous sentez dans l'injustice, vous allez réclamer vos droits, vous allez rentrer en colère. Non, c'est pas juste. Il faut absolument que tu me respectes, etc. Quand vous êtes conscient, vous commencez à tourner le regard vers l'intérieur. Ah oui, là, quand on me dit ça, ça fait mal. Hein. Donc, je suis blessé. Hein. Ce n'est pas l'autre qui m'a blessé. C'est je porte une de ces 5 blessures trahies en moi, peut-être même d'autres blessures. Et tant que je n'en suis pas conscient, je ne peux pas m'en délivrer. Hein. Je suis conscient que je suis irritable, je suis conscient qu'il y a de l'injustice en moi et que ça me concerne et que tant que je ne l'aurai pas traité, eh ben, ça va m'accompagner et ça va pourrir les relations parce que je vais dire à l'autre pourquoi tu m'as rejeté, pourquoi tu m'as abandonné, alors que je porte ces blessures en moi. Donc la conscience, c'est avoir une vision claire de soi-même, suffisamment claire, pour prendre la responsabilité de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, et des jugements aussi que je peux porter sur moi-même et sur les autres. La conscience, c'est aussi la faculté de se reconnaître soi-même en tant qu'être vivant, en tant que personne. Quand je me vois dans le miroir, je sais que c'est moi, c'est pas un autre être humain. Il y a certains animaux qui se reconnaissent dans le miroir et ils savent que ce n'est pas, par exemple, un autre éléphant. S'il y a un éléphant et un miroir, l'éléphant sait que c'est lui dans le miroir. Ils ont démontré ça en faisant une croix sur la tempe de l'éléphant à la peinture blanche. L'éléphant se regarde dans le miroir et avec sa trompe, il touche la croix parce qu'il la voit dans le miroir. Donc il sait que la croix est sur son propre corps. Donc les dauphins, les baleines, les primates supérieurs, et puis aussi étonnamment certains oiseaux ont une conscience, c'est-à-dire ils savent se reconnaître soi-même, ils savent reconnaître leur propre existence. Hein. C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein, quand je suis conscient de ma vie, je suis conscient de mon existence. Voilà, et on peut avoir une conscience qu'on promène dans le corps. Ça veut dire que si vous mettez votre main comme ça, vous pouvez tout à fait mettre la conscience dans le petit doigt. Hein. Vous pouvez essayer. Mettre plus d'attention dans le petit doigt que dans les quatre autres. C'est comme si le petit doigt avait plus d'importance, plus d'existence. Et puis ensuite, vous allez dans le pouce, et ça fait la même chose. Le pouce paraît rempli de plus d'énergie. Vous sentez la présence du pouce, sa position dans l'espace, plus facilement quand vous mettez la conscience. Et mettre la conscience, c'est orienter l'énergie corporelle vers un endroit du corps. Hein. Je peux la mettre où je veux, hein, dans mon orteil, dans mon oreille, sur mon crâne. Ça demande un certain entraînement. Ça, c'est la conscience corporelle. Ce n'est pas très différent de la conscience en tant que présence, parce que c'est une présence à moi-même dans une partie du corps. Hein. C'est comme si la conscience, c'était la faculté de diriger l'énergie dans une partie du corps, ou vers une émotion, ou vers une personne. Hein. C'est comme une énergie que je peux déplacer, hein, que je peux orienter, soit dans le corps, soit à l'extérieur du corps. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions?
Quand tu dis énergie, est-ce que si je mets vibration, c'est la même chose?
Oui, oui, oui. Énergie, c'est pas forcément le mot exact. Hein, c'est juste un mot pour donner une idée. C'est comme si j'avais un faisceau et puis que je pouvais, avec un projecteur, hein, je pouvais éclairer là, ou éclairer là, ou éclairer ici. Hein. C'est comme si dans mon corps, il y avait de l'énergie et que je pouvais l'orienter, cette énergie. Je peux, par exemple, sentir mon corps tout entier. Je ne l'oriente pas, je suis présent à la totalité de mon corps. Quand on médite, on peut faire ça. Et puis, à un autre moment, je vais dire, ce qui m'intéresse, c'est de sentir mes épaules. Je vais sentir seulement mes épaules. Alors, je dirige soit une énergie, soit une vibration, c'est pas important. Le mot n'est pas important. Tu peux dire que si l'énergie vibre, hein, donc ça peut être la même chose. Ça répond à la question?
Oui.
Le mot n'est pas extrêmement important. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la conscience n'est pas le corps. Le corps est un véhicule que la conscience utilise. C'est pour ça que je peux mettre ma conscience hors du corps dans certaines pratiques. Je peux mettre ma conscience sur mon émotion, et l'émotion, elle n'est pas forcément logée dans mon corps. Hein. Elle n'est pas non plus palpable. Hein. C'est quelque chose d'invisible. Hein. On ne peut pas voir la colère, on ne peut pas voir la joie ou l'amour, etc. Donc pour la science, la conscience est logée dans le cerveau, et pour la spiritualité, la conscience, elle est subtile, elle est esprit. Hein, c'est des plans supérieurs, c'est des plans qui ne sont pas, je dirais, matériels. Hein, c'est quelque chose de plus invisible, hein, je dirais. Donc, on va développer la conscience en étant très attentif. Dans le tantra, quand vous dansez pour vous, vous avez tendance à être plus attentif que quand vous dansez pour « j'ai envie de te faire plaisir, hein, j'ai envie de te séduire » ou « j'ai envie de te plaire ». Là, on peut dire que je me décentre un petit peu parce que je fais pour l'autre. Hein. Quand je fais pour moi, ben, je sais, je me fais plaisir, je fais exactement, je suis présent à mes mouvements, je me dis, tiens, j'ai envie de danser comme ça, alors je danse comme ça. Il y a une présence qui implique aussi une plus grande liberté qui peut se développer avec cette conscience. Mais je peux aussi être conscient de l'autre. Hein. Si je suis en face, par exemple, de toi, et que je te regarde dans les yeux, je suis totalement présent à toi, hein, à ce moment-là. Mais en même temps, je suis totalement présent à moi. Donc, il y a cette conscience qui est attentive à l'autre et à moi-même. Hein. Je peux faire les deux à la fois. La conscience, c'est une sorte de muscle, parce que plus vous l'exercez, et plus elle se fortifie. C'est pour ça que je dis, le tantra et la méditation active, c'est des techniques, lorsque vous les pratiquez pendant un an environ régulièrement, ça dépend des personnes, hein. Parfois ça va très vite, parfois ça résiste et ça met plus de temps, alors vous pouvez développer la conscience à un point tel que vous devenez beaucoup plus présent, beaucoup plus libre par rapport à vous-même et par rapport aux autres, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus aimant, parce que en un an, votre conscience personnelle grandit. Hein. Elle grandit parce que vous devenez, avec les exercices du tantra et de la méditation active, vous devenez présent à vous-même, à l'endroit où vous dites, tiens là, je me sens super bien. Ou alors là, je suis vraiment mal à l'aise. Hein. Vous commencez à mettre des mots sur vos ressentis. Il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité qui se développe. Si je sais que j'ai peur, hein, et que je suis conscient de la peur, mais qu'en même temps, il y a le désir de faire quelque chose, je vais pouvoir faire cette chose avec le désir malgré la peur. C'est-à-dire que la peur ne va pas être un obstacle pour faire quoi que ce soit, parce que je sais qu'elle est là, mais je mets ma conscience, je mets mon attention sur l'envie. Hein. Si vous prenez le mot envie, il y a en et vie. Hein, je suis en vie. Et quand vous êtes en vie, vous incarnez la conscience. Et la peur ne disparaît pas réellement, hein, mais quand vous pensez à ce que vous voulez faire, que vous avez envie de faire, vous faites grandir cette chose. Hein, c'est comme la conscience. Quand j'ai envie, par exemple, d'aller inviter quelqu'un pour danser avec elle ou avec lui, je peux aussi avoir peur de le faire. Mais si je me centre sur l'envie, je vais y aller plus facilement. Si je me centre sur la peur, je vais faire grandir la peur parce que je lui donne de l'énergie et donc peut-être je ne vais même pas me décoller de mon coussin parce que la peur sera plus forte que l'envie. Donc ce sur quoi vous mettez votre attention, votre conscience, grandit hein, au niveau de votre être, de votre présence.
Mais en fait, quand tu dis, quand tu expliques que si on met l'énergie sur la peur et donc on lui donne, on donne de l'énergie davantage à la peur, ça peut nous bloquer, ça peut aussi nous rendre conscients de notre responsabilité face à cette peur et se dire, bon, j'y vais, un point c'est tout de la dépasser, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a deux façons d'aborder la peur. Aborder la peur en conscience, c'est, oui, j'ai peur, ok, hein, je fais le constat et je suis authentique. Je n'essaie pas de me dire, non, ça n'existe pas, ou non, je n'ai pas envie de le voir. Ça, c'est la partie consciente. Après, je peux être hypnotisé par ma peur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur, oh là là, je ne vais jamais y arriver. Alors là, c'est la poule devant le serpent. Je perds mes ressources. Hein. Je ne suis plus, je suis pas connecté à mon vivant. Hein. C'est la peur qui est la chose prépondérante en moi, parce que je me suis centré dessus sans la regarder avec authenticité. Alors, je vais donner un exemple concernant la peur qui est assez parlant. Il y a quelqu'un qui disait, vous ne pouvez pas sortir d'une pièce si vous n'êtes pas déjà entré dans la pièce, ce qui paraît normal. Si vous voulez sortir de cette pièce, il faut déjà y entrer. Hein. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas sortir de la pièce. Il faut d'abord entrer dedans. La peur, c'est une pièce. Si vous voulez sortir de la peur, il faut y entrer. C'est-à-dire, ah oui, la peur est là, je la sens, elle me noue les tripes, ok, hein, je la vis, je l'expérimente, et en même temps, je ne suis pas que la peur. J'ai conscience de ma peur, je suis authentique avec la peur, et en même temps, je sens qu'à côté de la peur, avec la peur, il y a aussi l'envie d'aller danser avec quelqu'un ou de faire ça ou ça. C'est pour ça que les deux sont importants. Hein. Il n'y a jamais de peur sans désir, et il n'y a jamais de désir sans une partie de peur. Mais si je mets mon énergie sur la peur, si je ne regarde que la peur, je vais la faire grandir et je vais m'hypnotiser. Si je regarde le désir, l'envie, je vais aussi faire grandir ce désir et la peur va devenir plus petite. Et à ce moment-là, je vais pouvoir braver la peur plus facilement. Mais ça passe par je suis authentique, je suis vrai avec ce qui m'habite. Hein. Si je n'entre pas dans la peur, je suis plutôt l'objet de ma peur, c'est la peur qui me gouverne. Mais si j'entre dans la peur et que je la vis et que je l'autorise à être présente, alors c'est moi qui gouverne la peur avec ma conscience. Parce que la peur, c'est juste un petit endroit agité de moi qui a besoin que je le regarde, que je guérisse la blessure éventuellement. Quand je regarde, ça devient moins effrayant parce que je peux la voir pour ce qu'elle est. Je ne suis pas gouverné par la peur. La peur vient de l'ignorance, hein, et la conscience, c'est le contraire de l'ignorance. C'est vraiment la présence à ce qui est. Donc, si vous êtes assis là avec l'envie de découvrir le tantra, sentez aussi la part de peur qui est là. Hein, parce qu'il y a toujours, en parallèle, une petite peur de « qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure ?» Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être impliquant? Voilà. Ou pas, hein, peut-être que vous avez déjà réglé cette partie. Mais il y a une dualité, envie et peur. Et la conscience permet de regarder l'envie avec lucidité, permet de regarder la peur avec lucidité. Et quand vous vivez la peur, vous pouvez sortir de la peur, hein, parce que vous l'avez vécu. Quand vous vivez la colère, c'est-à-dire un enfant qui hurle parce qu'il n'a pas eu sa sucette, tout le supermarché l'a entendu. Hein. Et puis sa mère lui dit non, il hurle, 10 minutes après, il joue. Pourquoi il joue? Parce qu'il est sorti de sa colère. Il est entré dedans et ensuite il en est sorti. Si je n'entre pas dans ma peur, si je n'entre pas dans ma colère, c'est la colère qui me gouverne, c'est la peur qui me gouverne. La malheureuse personne qui va raviver cette colère ou raviver cette peur, elle va se prendre une douche froide parce qu'elle était, elle tourne en rond en moi et elle attend le moment pour sortir. Ça répond à la question ?
Ouais. En fait, pour l'exemple de l'enfant, tu dis qu'il est entré dans sa peur parce qu'il l'a exprimé, c'est ça en fait ?
C'est ça.
Mais dans le cas d'un adulte, quelqu'un qui nous met en colère, on va pas forcément. On va déjà essayer de se connecter à cette colère, déjà prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Mais on va pas forcément lui cracher dessus. On va pouvoir lui exprimer quand même. Lui exprimer sans qu'il soit responsable, sans lui faire sentir qu'il n'est pas responsable de ça, mais lui exprimer ce que ça nous fait.
Exactement. Exprimer, c'est mettre à l'extérieur. Il n'y a même pas besoin de l'autre. Hein. Si je suis en colère, ça me concerne. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons tous un baril de poudre et les autres se promènent avec des étincelles et des fois, ils nous allument notre baril de poudre. Donc, s'il y a une étincelle qui a eu le malheur d'allumer mon baril de poudre, je ne suis pas obligé de lui exploser à la figure, parce que ça ne le concerne pas. Lui, il est l'étincelle. Qu'est-ce qu'a fait l'étincelle? Elle a allumé, mais c'est une toute petite partie de l'énergie, l'étincelle. Le baril de poudre, il est en toi. Donc, exprimer, ça veut dire, là, j'en ai assez, là, j'en ai marre. Je dis je, parce que ça me concerne. Hein, je n'ai pas dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Ou si vraiment je sens de la violence, je me retire chez moi, dans la forêt, dans un champ, et je commence à hurler ma colère. Alors, il y a la colère intérieure qui fait des ravages et des ulcères, et il y a la colère que j'exprime, mettre à l'extérieur, qui se nettoie automatiquement, parce que je lui ai donné un champ d'expression. Donc, l'autre n'est jamais responsable. On ne va pas entrer vraiment dans le domaine de la communication non violente, mais quand je ressens de la colère, je l'avais déjà en moi avant que l'autre dise le premier mot. Donc, merci l'autre de m'avoir donné l'occasion de la nettoyer dans mon fort intérieur. Je m'excuse. Ok. J'éteins. Voilà. Alors, être authentique, hein, être conscient, ça se développe avec être authentique. Oui, j'ai peur. Oui, dans une relation de couple, oui, je suis jaloux. Hein. Oui, je le reconnais. Hein. Je le dis, je l'exprime. Oui, là, j'ai la frousse. Hein. Quand vous mettez de l'énergie sur reconnaître une émotion avec authenticité, alors il n'y a plus la politique de l'autruche. J'ai peur, mais je ne le dis pas. Je ne le reconnais pas. Je suis jaloux, mais je ne te dis rien. Je suis en colère, mais je fais un grand sourire. Qu'est-ce que ça fait ? Des gros conflits à l'intérieur, des bagarres qui consomment plein d'énergie. Donc, nous apprenons dans le tantra à être vrai, à être authentique. Par exemple, si je suis en colère, ben, je ne vais pas faire semblant d'être joyeux. Hein. Je vis ma colère. Si j'ai peur, je la ressens, hein, je suis vrai avec. Être vrai, ça a un immense avantage, c'est que ça vous redonne plein d'énergie. Parce que la bagarre à l'intérieur qui dit « je fais semblant, hein, je fais un grand sourire alors que dedans c'est la cata » ou « je suis jaloux et je fais un grand sourire à ma chérie alors que je suis hyper fragilisé à l'intérieur », la guerre consomme beaucoup d'énergie. Et être authentique, être vrai, être conscient de ces choses à l'intérieur qui sont déséquilibrées, ramène beaucoup d'énergie. J'ai le désir de faire ça, je le dis, hein, je ne le garde pas à l'intérieur pour moi. Donc je vais donner un exemple. Comme tout à l'heure, j'ai dit, je me mets en face de toi et je te regarde dans les yeux. Il y a un exercice comme ça dans le tantra qui dure 20 minutes. Je te regarde dans les yeux avec bienveillance. Et j'essaie d'être vrai. C'est-à-dire, je n'essaye pas de te séduire. Je n'essaye pas que tu me souris. Je suis comme je suis. Si à ce moment-là, je suis triste, je contacte, je laisse exprimer par mes yeux cette tristesse. Si à ce moment-là, je suis neutre, bah, y a rien. Si à ce moment-là, j'ai... de l'attention, de la bienveillance, je l'envoie par mes yeux. Et je reste connecté à la personne par le regard dans ma vérité. Hein? Ça, c'est un exercice qu'on fait. Alors, c'est pas facile hein, de faire ça quand on est dans un monde où on passe son temps à porter des masques, hein, à être conditionné. Fais ci, fais pas ça. Dans Tantra, nous réapprenons le vrai contact humain, celui qui n'est pas conditionné. Et la conscience ne peut pas venir avec les jeux de masques, avec « je vis ça mais je ne le reconnais pas ». Elle vient avec régler les conflits intérieurs, déjà. Je vis la jalousie, je t'en parle. Hein. Je suis en colère, je ne fais pas semblant d'être joyeux. À ce moment-là, je récupère énormément d'énergie. Et puis, il y a beaucoup de conditionnements en nous. Et dans le tantra, nous attachons à déconditionner l'esprit. Ça veut dire à penser à nous-mêmes, à nous faire du bien, je mérite le meilleur, je ne passe pas en dernier à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon à prendre. Et puis, voilà, je me fais des cadeaux énergétiques, hein, dans certains exercices. Il y a deux personnes, et puis la consigne, c'est demander ce qui vous plairait le plus. Et vous allez demander à l'autre, soit de vous masser, ou soit de vous dire des mots gentils à l'oreille. Et ça va être pour vous. Hein. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme positif. L'égoïsme positif, c'est retrouver sa propre valeur. Hein. Arrêter d'être un bourreau pour soi-même. J'ai envie de ça, je demande ça. Hein. Je pense à moi. Hein. Je pense à moi dans le sens... j'arrête de me sacrifier pour l'autre. Hein. Moi, je dis dans le tantra, moi d'abord. Et c'est pas de l'égoïsme négatif, c'est de l'égoïsme positif. C'est-à-dire, je me nourris à l'endroit où j'ai des manques, et quand je suis bien nourri, quand je suis rempli d'amour, quand je suis rempli de tout ce que j'aime, à ce moment-là, ça déborde. Et ça déborde, et tous les autres autour de moi en profitent. Parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de lui montrer l'exemple d'une personne qui va bien, d'une personne qui rayonne. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un de la même manière que vous ne pouvez pas tirer sur l'herbe pour la faire pousser. La personne, c'est comme un brin d'herbe. Elle pousse avec les épreuves, avec les bonheurs, avec son expérience de vie. Mais je ne vais pas lui donner des conseils pour faire ci pour être heureux ou non, ça ne marche pas. Mais par contre, si moi je suis rayonnant, si moi je suis joyeux, si moi je suis libre, et qu'elle me voit agir avec liberté, avec amour, à ce moment-là, elle va se dire, waouh, moi aussi j'ai envie de ça. Hein? Comment il fait? Donc, développez votre liberté, développez votre conscience, développez votre propre amour de vous-même, et comme ça, vous savez comment donner quelque chose à l'autre. Si vous êtes à sec, dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez à donner? Rien. Vous êtes comme un mendiant ou une mendiante qui n'a pas un sou et qui est obligé de faire la charité. Hein? Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Quand j'ai le cœur sec ou vide ou que je ne suis pas connecté à mon amour, eh ben, la relation amoureuse, c'est aime-moi, aime-moi, aime-moi. Mais moi, je ne peux pas donner parce que j'ai rien. Donc, dans ton train, on réapprend notre propre valeur et on déconditionne cette histoire qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Ça fait partie de la libération de l'esprit. Donc, chaque fois que je reconnais quelque chose en moi, je peux le libérer. Je donne l'exemple de la jalousie, je donne l'exemple de la colère, je peux donner l'exemple de la peur. Quand vous reconnaissez quelque chose avec conscience, alors à ce moment-là, vous pouvez le libérer parce que vous êtes responsable de ça. Vous n'êtes, quand vous ne le reconnaissez pas, vous subissez ça. Hein? Si vous êtes en colère et que vous êtes sûr que la colère vient de l'autre, alors vous n'êtes pas responsable de votre colère. Vous projetez que l'autre est fautif. Si je dis, ok, excuse-moi, tu as dit quelque chose, ça m'a fait vraiment très mal, mais tu n'y es pour rien. J'ai quelque chose à regarder en moi, j'ai quelque chose à traiter en moi, tu peux repartir en paix, je vais m'en occuper. Vous voyez la différence? Là, je deviens responsable et je déconditionne mon esprit que l'autre m'a fait quelque chose. À part la petite étincelle, il n'a absolument rien fait. Donc, en reconnaissant et en étant responsable, je peux transformer. C'est ça la clé. Hein. Je transforme la peur quand je la vois. Parce que, est-ce que je peux transformer quelque chose que je ne vois pas? Non. Il faut d'abord le reconnaître. Si je sais que je suis jaloux, et si je le vis, et si je le reconnais sans faire porter le chapeau à l'autre, alors je peux le transformer. C'est pareil pour le manque d'amour, la dépendance affective, voilà. Tout ça, la conscience amène une couche d'authenticité qui permet une transformation. Et dans le tantra, on essaye d'être vrai avec les aspects difficile, émotionnel de nous-mêmes, mais aussi avec les aspects joyeux, libres, aimants de nous-mêmes. La conscience n'est pas limitée aux aspects négatifs, hein, aux aspects... Quand je suis inconscient, je n'ai pas accès à mes émotions au niveau authenticité. Quand je suis conscient, je les vois, je les reconnais et je peux les transformer. Et donc, dans le tantra, on développe la conscience pour devenir libre par rapport aux émotions. Quand je sais que la jalousie ne concerne pas l'autre, les relations de couple commencent à être beaucoup plus simples. Ben, je vais voir un thérapeute et je vais m'occuper de pourquoi j'ai besoin d'être jaloux à ce point-là. Pourquoi j'ai besoin de mettre le grappin sur l'autre et de lui empêcher d'être libre. Ça me concerne, j'ai pu hériter ça de mon enfance ou je ne sais pas d'où. Mais il y a un endroit où ça a besoin d'être regardé, transformé, pour que enfin la relation de couple soit normale. Quoi. Bah, tu as envie de sortir toute seule ce soir ou avec tes amis, va ma chérie, je t'en prie. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui me déstabilise. Je fais une petite minute de silence. Si dans cette minute il y a une question, n'hésitez pas, hein, sur un sujet que j'ai abordé ou que je n'ai pas abordé.
Moi je voulais savoir, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, je suis d'accord sur le fait qu'on est responsable de nos douleurs, enfin, par exemple la colère, ou... mais l'autre, quand il sait là où il faut appuyer pour ça faire. Ça fasse mal, mais quand même ça part de responsabilité.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors je répète pour le micro, voilà, chacun a sa blessure, mais l'autre, lorsqu'il appuie sur le bouton, il a aussi sa part de responsabilité. L'autre peut avoir une blessure à regarder qu'il projette sur toi, et toi tu peux avoir une blessure à regarder que tu projettes sur lui. Hein. Ça peut être un jeu de miroir. Ça veut dire que si l'autre est blessé, il va peut-être, au lieu de regarder sa blessure, il va te la projeter en te jugeant et en t'envoyant quelque chose de désagréable. D'accord ? Mais cette projection, hein, quand il te dit par exemple, t'es complètement débile, t'aurais pas dû faire ça, hein, ça c'est une projection. Ça part de l'endroit qui n'est pas en paix en lui. Hein. Ça va te mettre en colère. Alors toi, tu as le choix de me renvoyer en ping-pong cette colère et dire pourquoi tu m'as dit ça, etc. Et puis tu vois que c'est un jeu infini. Parce que je projette, tu projettes, je projette, tu projettes. Donc l'autre, oui, s'il est blessé et qu'il projette sur toi, il a son authenticité à trouver, la transformation de sa propre blessure pour arrêter de te dire des choses comme ça. Oui, ça c'est sa part de responsabilité. La mienne... c'est si jamais j'étais pas un baril de poudre prêt à exploser, il me dirait mais t'es complètement débile, et moi je m'éclaterais de rire parce que je pense que comment ça se fait que tu penses ça, c'est complètement loufoque que tu penses cette chose là ça ne me mettrait pas en colère, ça me laisserait dans la neutralité ou dans l'amusement ou dans mais pourquoi tu me dis ça, tu vois, ça serait pas blessé. Ça répond à la question ? Bien souvent, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas je suis blessé et au lieu de m'en occuper, j'arrose l'autre avec ça. C'est les deux qui font ça en même temps. Hein. Ce qui fait que chacun peut avoir sa part de responsabilité. S'il y a d'autres questions qui viennent... Le tantra ne parle pas de régler les émotions, hein. Le tantra parle de rétablir une paix en arrêtant les conflits intérieurs. Hein. Les conflits intérieurs, c'est je vis ça mais je ne le montre pas. Je vis ça et je dis non à ça. Hein. Par exemple, j'ai super envie de faire ça et je me dis oh non, 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 oh non, oh non, je n'ai pas le courage, je ne veux pas y aller, ça ne se fait pas, ou voilà. Il y a des choses qui disent oui, des choses qui disent non. Et au milieu, déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Et au milieu, ça se déchire. Hein. L'énergie tire d'un côté et de l'autre. Je perds énormément d'énergie. Et il n'y a pas un conflit à l'intérieur de nous. Il y en a des dizaines. Hein. Il y a la morale, il y a ce qui se fait, il y a ce qui ne se fait pas. Il y a le social qui dit ça oui, ça non. Il y a la religion pour certains qui disent attention, ne faites pas ça ou faites plutôt ça. Ou vous irez en enfer, ou vous irez au paradis. À l'école, on nous éduque dans certaines directions et d'autres sont soigneusement évitées. Donc il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de conditionnements qui créent des conflits à l'intérieur parce que nous avons des envies, nous avons des désirs qui viennent en conflit avec des conditionnements qui disent « ne fais pas ça » ou « ça se fait pas ». Donc dans Tantra, nous réapprenons le vrai contact humain qui ne tient pas compte des conditionnements, qui essaye, je dis bien qui essaye, de déconditionner l'esprit. Par exemple, quand je regarde Jamila dans les yeux 20 minutes, essayer de faire ça avec quelqu'un dans le métro, plus de 15 secondes, c'est considéré comme agressif. Hein. C'est un conditionnement. Ça se trouve, l'autre, il était aussi chaleureux, aussi bienveillant que vous. Mais votre conditionnement vous a dit, ça se fait pas. C'est dangereux. C'est dangereux pour moi. C'est dangereux parce que l'autre peut m'agresser. Voilà. Donc, on désapprend des choses. Dans le tantra, on n'apprend pas quoi que ce soit, mais on désapprend beaucoup de choses. L'idée, c'est, avec ces 20 minutes de regard, retrouver ce que c'est que le vrai contact humain. C'est une chose qu'on expérimente de moins en moins dans nos vies. Et lorsque vous retrouvez le vrai contact humain, vous avez un contact bien plus profond avec vos propres désirs, vos propres envies. Vous pouvez les exprimer plus facilement. Et puis, ce qui peut grandement aider le déconditionnement, c'est que dans le tantra, il y a un cadre spécifique qui dit on ne se juge pas les uns les autres. Si par exemple je suis en colère et que j'ai envie de crier, dans un groupe de tantra, je peux crier. Je ne crie pas sur quelqu'un, ou je ne fais pas, projette pas ma violence sur quelqu'un, mais je peux crier parce que je suis énervé. Si je suis très joyeux dans un groupe de tantra, je peux rire à gorge déployée, sans que quelqu'un me dise « ça se fait pas » ou « qu'est-ce qui t'arrive, tu es devenu fou ». Voilà. Donc le cadre de non-jugement qui fait que vous dansez comme vous voulez et personne ne va vous dire « c'est pas comme ça qu'on danse »,« danse raisonnablement », voilà, il n'y a pas de jugement. Dans le monde social, le jugement fait des ravages parce qu'on nous dit tout le temps « fais ci et pas ça » ou « ça c'est bien, mais ça non ». Ce qui fait que notre potentiel ne peut pas vraiment s'exprimer parce qu'il est limité par tous ces conditionnements. Donc un grand thème dans le tantra et une grande façon d'ouvrir la conscience, d'étendre la conscience, c'est faire pour soi-même sans se juger et faire pour soi-même sans juger les autres. Parce que peut-être que Jamila va se libérer en dansant comme une folle, d'ailleurs elle le fait, et c'est très bien.
J'ai appris.
Voilà, et c'est une manière de se libérer. Hein. Mais peut-être que toi, Lucille, tu vas danser en laissant la grâce s'exprimer sans la juger, ou en faisant des mouvements que tu ne fais pas d'habitude, ou en laissant le corps danser sans créer de chorégraphie. Hein, tu vois. Donc, il y a une façon de se libérer, une autre, chacun a la sienne. Donc, on ne se juge pas lorsqu'on se libère d'une manière qui nous est propre. Et le tantra dit, soyez vous-même, soyez vrai. Si vous avez envie de danser comme Jamila, bah, dansez comme Jamila, il n'y a pas de raison de faire autrement. Si vous avez envie d'exprimer votre joie d'une certaine manière, faites-le. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se libère parce que l'énergie qui était employée à dire intérieurement « ne fais pas ça », elle s'ouvre, elle se détend. À ce moment-là, je peux être libre et vrai. C'est pour ça que dans les soirées, dans les après-midi, dans les journées et dans les week-ends tantra qui sont la totalité de ce que je propose en tantra, le cadre est toujours le même. C'est ne vous jugez pas quand vous avez envie de faire quelque chose. Mais en même temps, respectez l'autre. C'est-à-dire, ne forcez pas quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie ou dont elle n'a pas envie. Si moi je suis libre, ça passe aussi par l'autre est libre. Sinon, l'autre devrait rester libre tout le temps. Donc, je peux dire oui, je peux dire non, je ne juge pas l'autre, je ne me juge pas parce que j'ai des choses que je peux faire hors convention. Vous entrez dans un endroit qui est protégé et sécurisé, sachant que l'espace de liberté dans cet endroit est beaucoup plus grand que l'espace de liberté dans le monde social. L'idée de se regarder dans les yeux, c'est un exemple. L'idée de danser vraiment comme vous en avez envie, c'en est un autre. Et chaque exercice que je vais vous proposer, y compris celui qu'on va faire tout à l'heure, après la petite pause, ça sera une occasion de faire grandir la liberté qui, à son tour, fait grandir l'authenticité, qui fait grandir la conscience. On peut dire qu'on ne sait pas si c'est la conscience qui fait grandir la liberté ou la liberté qui fait grandir la conscience ou l'amour, mais tout ça, c'est interrelié. Quand vous êtes vraiment vous-même, sans vous limiter, sans vous dire « j'ai envie de faire ça, mais il y a une voix dans ma tête qui me dit de ne pas le faire », à ce moment-là, il y a de l'énergie qui arrive parce que vous la libérez, cette énergie. Et cette énergie, elle se transforme en énergie de vie et votre vie devient beaucoup plus fluide. Alors vous libérez un conditionnement, deux conditionnements, trois conditionnements, 10 conditionnements, 50 conditionnements. Au bout d'un an, vous en avez libéré tellement que normalement vous débordez d'énergie parce qu'il n'y a plus ces conflits à l'intérieur qui disent « ça oui mais ça non ». Ça ne veut pas dire que dans le métro à opéra, vous allez chanter comme une dingue ou danser et traîner au commissariat. Non, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous êtes libre et vous savez quand est-ce que cette liberté elle est adéquate et quand est-ce que vous devez la retenir. Parce qu'il y a un monde social malgré tout. C'est clair jusqu'à maintenant ? Donc c'est apprendre à être plus libre. Mais la liberté est indissociable de la conscience, et je dirais aussi que la liberté est indissociable de l'amour que vous vous portez à vous-même et que vous portez aux autres. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même, ça tombe sous le sens. Si je n'ai pas un billet de 10 euros dans mon portefeuille, je ne peux pas le donner au mendiant. Si mon portefeuille est vide, je ne peux rien donner. Si mon cœur est vide, je ne peux pas aimer. Ou alors ça va être des demandes d'amour qui vont être déguisées en amour. Je vais dire sans arrêt, en filigrane, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Au lieu d'aimer l'autre, je vais lui envoyer sans arrêt des requêtes de mendiants. Est-ce que ça vous parle? C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Le mendiant, il est dépendant matériellement. Et le mendiant affectif, il est dépendant de l'amour des autres parce que cette personne n'a pas connecté sa propre faculté à s'aimer soi-même. Vous ne pouvez pas aimer l'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. Et dans Tantra, on réapprend à porter l'amour d'abord sur nous-mêmes. C'est ce que j'appelle l'égoïsme positif. Moi d'abord. C'est moi la personne la plus importante de mon univers. Mon univers, c'est moi au centre et tous les autres autour. Si je nourris pas le centre, comment je vais pouvoir nourrir les personnes qui sont autour? C'est impossible. Donc, on se met dans un cadre de sécurité, dans les soirées tantra, dans les soirées de découverte ou dans les autres structures. Ce cadre de sécurité vous permet d'oser un peu plus. Parce qu'en plus, il y a le même nombre d'hommes et de femmes. Sauf ce soir, parce que ce soir, enfin peut-être qu'on est en nombre égal, mais c'est peut-être juste un hasard. Parce qu'il n'y a pas de parité, mais c'est la seule fois où il n'y a pas de parité. On est en même nombre d'hommes et de femmes, mais pourtant ce n'est pas un groupe de rencontres pour trouver quelqu'un, pour fonder un foyer ou démarrer une relation amoureuse. on est dans le même nombre et en même temps, d'hommes et de femmes, et en même temps, il y a une règle qui dit, il n'y a pas d'enjeu avec une femme si tu es un homme. Il n'y a pas d'enjeu avec un homme si tu es une femme. Pourquoi ? Parce que dans l'enjeu, si je prends par exemple l'enjeu amoureux, j'ai envie de te séduire, c'est évident que dans cette envie-là, je vais me décentrer. Je vais porter toute mon attention sur obtenir quelque chose de l'autre. Ça peut se traduire par agripper l'autre. Hein. Ça peut être très désagréable pour l'autre aussi. L'enjeu n'est pas l'autre en face du sexe opposé ou même du même sexe, peu importe. L'enjeu, c'est est-ce que je vais oser prendre des risques avec moi-même ou est-ce que je ne vais pas oser prendre des risques. L'enjeu principal d'un groupe de tantra, c'est est-ce que je vais pouvoir me dépasser un petit peu. À l'endroit où j'ai peur, est-ce que je peux faire un pas de plus dans la sécurité. C'est pour ça qu'il y a un cadre qui inclut une dose importante de sécurité. Sans la sécurité, peut-être que nous n'oserions pas prendre un peu plus de risques. Hein, par exemple, regarder quelqu'un dans les yeux, il y a une part de risque. Il y a une part d'être vulnérable, il y a une part d'être ému, il y a une part d'être authentique. C'est pas facile dans une société où les émotions sont retenues et cachées d'être authentique. Ça représente faire un pas de plus dans une zone où je suis un petit peu en risque personnel. Mais le risque, c'est pas le danger, hein, c'est pas la même chose. Je prends un risque. Pourquoi ? Pour libérer quelque chose. Je vais explorer une zone que d'habitude je n'explore pas. Le tantra ne dit pas autre chose que soyez vous-même. Si on peut résumer le tantra à une seule phrase, c'est sois toi-même. En face de toi que je regarde, bah, je suis moi-même et je peux être touché parce que l'autre me regarde d'une manière vraie. L'autre peut être touché pour la même raison. Et on est entre hommes et femmes bien souvent dans le tantra parce que les hommes ont une énergie spécifique, ça vous le savez certainement. Les femmes ont une énergie spécifique, c'est complémentaire. Le but du tantra, c'est de rassembler ces énergies complémentaires en vous, hein, parce que vous avez le féminin quand vous êtes un homme et vous avez le masculin quand vous êtes une femme. Et le but, c'est de rassembler les deux pour être complet, parce que le féminin a ses caractéristiques, c'est le yin, hein, l'énergie du yin, le masculin a ses caractéristiques, c'est l'énergie du yang, les femmes ont besoin de développer le yang, c'est pour ça que les hommes sont attirants pour les femmes, les hommes ont besoin de développer le yin, dans la plupart des cas, hein. C'est pour ça que les femmes sont attirantes pour les hommes. Et on a à l'extérieur de nous des qualités qu'on aimerait développer à l'intérieur de nous. Si un homme est sensible à la beauté d'une femme, c'est qu'il porte la beauté, qu'il a envie de développer cette beauté à l'intérieur de lui-même. Si une femme est sensible à l'aspect organisé d'un homme, l'aspect prendre des décisions, l'aspect d'engagement, c'est qu'elle a ses caractéristiques, elle a envie, grâce à cet homme, de les voir plus souvent, de les voir s'exprimer et de les développer en elle-même. Et le tantra utilise les femmes et les hommes dans ce but de miroir. C'est pour ça que je dis, l'enjeu n'est pas l'autre en tant que relation amoureuse ou en tant que séduction ou que sais-je encore. L'enjeu, c'est avoir en face de vous une énergie qui est complémentaire à la vôtre, qui va vous apprendre quelque chose. Si je regarde quelqu'un dans les yeux, c'est pas la même chose si je regarde une femme quand je suis un homme que si je regarde un homme quand je suis un homme. C'est pas pareil entre femmes que entre hommes et femmes. Donc ça fait que cette complémentarité, elle va nourrir en vous la partie de vous qui a besoin d'être nourrie pour que vous soyez complet. Le tantra, le but ultime du tantra, c'est réunir le féminin sacré et le masculin sacré. C'est quoi le féminin sacré et le masculin sacré ? C'est le masculin qui est conscient d'être masculin avec le féminin qui est conscient d'être féminin. Conscient, ça veut dire j'assume pleinement les qualités de mon féminin, j'assume pleinement, je reconnais pleinement les qualités de mon féminin. Je fais une petite pause d'une minute pour laisser les questions venir, s'il y en a.
En explorant le tantra, est-ce qu'on découvre aussi son féminin sacré de manière aussi évidente qu'on le porte soi quand on est une femme? Est-ce qu'on le touche en fait? Est-ce qu'on touche son féminin sacré? Est-ce qu'on peut le reconnaître?
Excellente question. Oui, parce que en fait, qu'est-ce que fait la conscience dans le tantra? Dans le tantra, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est comment nous le faisons. Si je le fais avec attention, conscience et responsabilité, ça devient sacré. Si je le fais avec inconscience ou violence ou inattention, ça devient profane, c'est-à-dire quelconque, anodin. Le sacré, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui s'élève en valeur. Donc, dans le tantra, on apprend à élever sa propre valeur en se donnant de l'amour et en regardant aussi l'autre comme quelqu'un de sacré, comme quelqu'un qui a une grande valeur. Donc, on l'élève, cette valeur. La beauté, dit-on, est dans le regard de celui qui regarde. Elle n'est pas chez l'autre. Hein. Vous connaissez ce proverbe ? La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, dans le tantra, on élève la valeur. Et donc, quand toi, tu élèves ta propre valeur, parce que dans l'exemple que j'ai cité, tu vas demander quelque chose pour toi. L'autre va te donner pendant 30 minutes quelque chose que tu as demandé, quelque chose qui te manque, quelque chose que tu ne reçois jamais, quelque chose dont tu as tellement envie, tu vois. Ça peut être simplement, il va te dire à l'oreille, tu es magnifique, tu es belle, c'est des choses que tu aurais peut-être besoin d'entendre, que tu n'as pas entendu, ou je t'aime, ou je ne sais pas. Ça peut être vraiment n'importe quoi. À ce moment-là, tu vas recevoir ce dont tu as besoin et ta propre valeur est amenée à grandir. Et ça devient sacré parce que quand tu t'accordes toi-même une plus grande valeur, ton être devient le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est aussi le féminin qui assume pleinement sa puissance, hein, la puissance, le féminin qui se dresse, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a aussi développé le yang. Hein. Le féminin sacré, c'est pas seulement le yin à son maximum, c'est le yin qui associe les qualités yang. C'est un être complet. Hein. Quand tu es dans le féminin sacré, tu es déjà un être beaucoup plus complet parce que je me dresse, hein, ou je sais dire oui, je sais dire non, qui sont des qualités yang, qui sont des qualités que les hommes apprennent aux femmes par leur exemple. Hein. Bien sûr, les femmes apprennent aux hommes d'autres choses. Hein, c'est ça qui fait la beauté. Donc tout ce que nous faisons dans le tantra, c'est rajouter une couche de conscience sur les choses ordinaires pour qu'elles deviennent sacrées. Sacré, c'est plus de valeur. Hein. Ce n'est pas religieux, hein. Le mot sacré, ça ne veut pas dire que c'est religieux. Hein. C'est donner de la valeur, élever la valeur des choses. Je regarde un petit peu l'heure. S'il y a d'autres questions, c'est possible. Il y a encore à peu près 30 minutes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sacrées, mais que nous ne regardons pas réellement. Hein. La valeur d'une relation, l'amour qu'on donne, voilà. Redonner de la valeur à des choses dans les relations, et puis se redonner à soi-même la valeur qu'on attend. Donc, tant qu'en moi, il y a du conditionnement fort qui dit « tu ne vaux rien » ou « tu es coupable », ça, c'est des choses, des valeurs qui sont plutôt fausses dans notre esprit. ou je ne sais pas aimer, voilà, des choses qui sont tellement conditionnées. Tant qu'il y a ces choses-là, c'est difficile d'aborder le sacré. Hein, il y a besoin de retrouver le chemin de l'amour pour soi-même. Et ça se fait progressivement avec des perches que moi je vous tends, qui vous disent, et là, est-ce que tu vas prendre ce petit risque, hein? L'essentiel du tantra, c'est pas, est-ce que je vais oser faire quelque chose avec toi, c'est, est-ce que je vais oser me dépasser un petit peu en ta compagnie, hein? L'autre me sert de support, de miroir, de déclencheur, mais l'enjeu, il est avec moi et pas avec l'autre. Quand je dis il n'y a pas d'enjeu amoureux, ça veut dire que s'il n'y a pas d'enjeu avec Jamila ou avec les autres femmes, si je suis un homme, alors le seul enjeu qui reste, c'est est-ce que je vais oser ou pas oser. C'est pour ça que nous coupons l'enjeu avec les autres. C'est pour garder l'enjeu avec soi-même. Si je suis entièrement centré sur quelqu'un avec comme but de posséder l'autre ou d'entrer en relation amoureuse, à ce moment-là, je suis complètement déconnecté de moi-même, puisque je suis totalement centré sur l'autre. Et donc, le cadre qui dit « il n'y a pas d'enjeu avec l'autre », il a pour but de vous ramener à « est-ce que vous allez oser vous dépasser un petit peu, beaucoup, ou pas ?» Hein? C'est ça l'enjeu. Quand vous y arrivez, vous ressortez plus libre que vous n'êtes entré, et c'est le but du tantra. Parce que liberté entraîne conscience, entraîne amour, entraîne tout le reste. Donc, ce sont des techniques pour libérer l'esprit. Hein, ce qu'on fait dans les exercices, parfois ça va être des exercices en grand groupe, tous les yeux bandés, tout à l'heure ça va être ça, par exemple. On va tous se bander les yeux, et puis je vous dirai ce qu'on fera, mais parfois c'est pas seulement deux par deux. Parfois, c'est par la parole. Parfois, les femmes vont se réunir dans un coin de la pièce. Je vais donner un thème et elles vont échanger leur expérience sur ce thème. Par exemple, comment c'était la première fois que tu as été amoureuse pour toi? Raconte-moi ça. Et chaque femme va échanger avec authenticité sur cette expérience-là. Et puis, les hommes vont s'asseoir entre eux et vont faire la même chose en même temps. Donc, est-ce que je vais oser livrer un petit peu de mon intimité dans un cadre où tout est confidentiel? Voilà, c'est les enjeux qui se posent à vous. Alors, parfois, on se bande les yeux parce que se bander les yeux, ça permet de ne pas autant juger. Hein. Si j'ai les yeux ouverts, ben, toi ou toi ou toi, c'est pas la même chose parce que je vous vois et je vous juge. Hein. Même sans le vouloir, je vous juge. Quand j'ai les yeux bandés, je deviens quoi? Un corps qui reçoit de la sensorialité. C'est mes sens qui fonctionnent. Et les yeux sont coupés, et les jugements sont coupés parce qu'il y a un bandeau. Donc, ce qu'on fait avec le bandeau peut être très différent de ce qu'on fait sans bandeau. Et c'est pour ça qu'on utilise le bandeau dans le tantra. Parfois, ça va être les yeux ouverts, mais il y aura un autre but. Hein. Avec le bandeau, ça sera aussi, est-ce que je vais oser ou pas oser? Mais l'autre va être anonyme, et ça va peut-être m'aider à oser, hein, le fait que l'autre soit anonyme. Des fois, ça sera entre hommes et femmes, parce que, pour les raisons que j'ai dites, hein, entre hommes et femmes, il y a des choses à s'apprendre. Hein. Si, par exemple, je partage mon premier amour avec Jamila et Jamila le fait avec moi, ben je vais apprendre, je vais lever un petit peu le mystère qu'est une femme pour moi, pour un homme, parce qu'il y a toujours une part de mystère. Donc Jamila va m'aider à lever le mystère, le voile, et moi je vais lui raconter aussi mon expérience, comment j'ai été fou amoureux la première fois, et elle va apprendre aussi comment un homme fonctionne avec ses qualités, ses propriétés d'homme. Donc, on va se servir d'aide mutuelle, de déclencheur aussi. C'est pour ça qu'il y a des exercices entre hommes et femmes. Et nous avons aussi une énergie qui est différente on n'est pas seulement différent physiquement, on a aussi des énergies différentes. Par exemple, une femme a beaucoup plus le cœur ouvert qu'un homme, parce que l'homme, il fonctionne différemment. Un homme a beaucoup plus le sexe actif qu'une femme, parce qu'une femme et un homme ne fonctionnent pas avec la même énergie. Et chaque point d'énergie dans le corps est à l'inverse entre hommes et femmes, ce qui fait que on a beaucoup à s'apprendre avec ces énergies complémentaires. Dans le tantra, on danse, hein, on danse toujours au début des groupes, parfois on danse même pendant les groupes, parfois on peut explorer des choses grâce à la danse, parce que la danse ne fait pas appel au jugement, parfois on danse aussi les yeux bandés. Parfois, il y a des exercices spécifiques pour exprimer des émotions. On peut aussi, dans les groupes un peu plus avancés, exprimer la puissance grâce au cri. Hein. Si j'arrive à crier comme un lion, mais avec 100% de mon énergie, peut-être est-ce que je vais libérer la part de moi qui n'ose pas s'exprimer en temps normal. Donc, il y a des groupes où on va, quand on le sent, se mettre au milieu du groupe et crier le plus fort possible. Pas après quelqu'un, hein, juste pour être soi-même. Là, je ne vais pas vous montrer. Hein. Parce qu'il y a des voisins. On le fait à Romainville, ça. Mais il y a des exercices comme ça où on essaye, mais ce n'est pas dans la découverte, hein, c'est un petit peu plus impliquant. Mais par exemple, il y a des exercices où on se dépasse dans la danse, où il y a une personne, je mets du Michael Jackson, et puis pendant 2 minutes, la personne danse à 100%, mais au milieu du groupe, elle est la seule à danser, tout le groupe regarde. Et elle danse à 100%, de ses ressources. Ça dure juste 2 minutes et après, ben, voilà, le groupe reçoit cette expression non limitée de la personne. C'est une manière aussi de déconditionner. J'ai honte, ça se fait pas, on va me juger. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Quand vous vous dépassez, alors il y a quelque chose qui est libéré. Hein, parce que c'est un endroit que vous n'explorez pas en temps normal à cause de la peur. Et grâce à la sécurité et à l'exercice et au non-jugement, vous pouvez faire un pas de plus dans une zone qui ordinairement n'est pas explorée. J'appelle ça la zone grise. Il y a la zone blanche qui est ben, je me sens en sécurité, je suis dans mon contexte habituel où je me sens bien. La zone noire qui est jamais de la vie, c'est la terreur absolue. Et entre les deux, la zone grise où je peux prendre un petit risque. J'ai peur, mais j'y vais. Hein. J'y vais avec la peur. J'attends pas que la peur arrête. La peur est là, mais je vais explorer ça tout en ayant peur. Hein. Parce qu'il y a aussi de l'envie d'explorer. Sinon, j'irai pas. Donc, j'ai un petit peu peur, mais l'envie de me dépasser est plus fort, donc je vais explorer ça avec la peur. La peur, elle peut être tout à fait petite ou elle peut être moyenne, mais c'est jamais une peur qui vous entraînerait dans la violence. Hein. La violence est complètement exclue de l'exploration dans le tantra.
Si je peux me permettre, en fait, je trouve que, en ce qui me concerne en tout cas, ce sont les soirées, entre autres, hein, les soirées de la pleine lune, où moi, par exemple, l'audace me vient, enfin à mon niveau, me vient plus, de manière plus spontanée. Elle est consciente, mais j'ose parce que on est tous dans, enfin je trouve qu'on est pas mal dans cette énergie et j'y mets plus de, ouais, plus de courage, voilà. Mmh. Et ça c'est très libérateur pour moi. C'est une belle proposition, voilà.
Alors pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi Jamila parle, je fais tous les mois une soirée de célébration pleine lune où c'est pas du tantra, mais il y a quand même la consigne, dansez vraiment comme vous voulez et laissez les autres danser comme ils veulent. Mais totalement, hein, on peut se rouler par terre, les musiques sont très, très belles Et il y a beaucoup d'énergie parce que c'est à pleine lune. C'est connu que la pleine lune amène beaucoup d'énergie. Les marées, les femmes vont toutes accoucher à la pleine lune. Demandez aux infirmières, les salles d'accouchement sont remplies à la pleine lune. Et donc il y a beaucoup d'énergie et on met cette énergie dans la danse. Et c'est l'énergie du tantra. L'énergie du tantra dit, faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de faire plaisir aux autres, arrêtez de vous sacrifier. Mais ce n'est pas du tantra dans le sens où il y a des exercices, parce que c'est juste de la danse. Et ça a lieu tous les mois, au jour précis de la pleine lune. En général, nous commençons avec une énergie un peu sociale, et ça finit dans quelque chose de pétillant au niveau... ça peut presque se palper dans le groupe. Au niveau liberté. Donc, le tantra, c'est pas seulement le jeudi de 19h30 à 22h30. Ça sert pas à être libre pendant 3 heures. Ça n'aurait aucun intérêt. Le tantra, c'est « Ah, je suis content, j'ai osé faire ça. Je suis allé l'inviter, même avec ma trouille. » Et je suis fier de ça. Vous voyez comme ça donne plus d'énergie, j'ai dépassé ma trouille. Et je ressors de là avec cette fierté, ce bien-être, cette vibration qui est plus forte parce que j'ai osé plus de liberté que d'habitude. Ça augmente mon taux vibratoire. Et quand j'augmente mon taux vibratoire par un acte d'audace ou d'oser quoi que ce soit... ou être conscient, être authentique, il y a beaucoup de choses qui élèvent le taux vibratoire. Quand je ressors de la pièce, je ressors avec ce taux vibratoire. C'est-à-dire qu'à force d'oser des choses, ma liberté envers moi-même grandit, ma liberté envers les autres grandit, j'arrête de demander un sourire ou de l'amour aux autres, je commence à être autonome, les autres s'en rendent compte. Au travail, on me dit « Mais tiens, t'as changé, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, la liberté que vous développez, elle rayonne. Vous arrêtez de quémander les sourires, vous arrêtez de demander de la reconnaissance, ou alors vous en demandez moins. Et donc, le but, c'est que vous viviez ça dans votre vie, et que ça soit de plus en plus palpable pour les gens qui sont autour de vous, dans votre relation amoureuse aussi, si vous en avez. Dans vos relations amicales, c'est-à-dire que vous vous dirigez vers la fin de la dépendance affective. Je fais ça pour moi, ou je suis bien avec toi, mais je suis bien aussi sans toi. Quand tu n'es pas là, je suis bien. Je ne suis pas en manque quand tu n'es pas là. Ça veut dire que j'ai assez de ressources pour me nourrir moi-même. Je ne prends pas mes ressources sans arrêt en te pompant ton énergie. Alors j'avais tout un cadre, mais je n'ai pas du tout suivi le truc. Qu'est-ce qu'on rigole? Ça n'a aucune importance. Je reviens au tout début. La conscience, quand vous la développez avec cette liberté que nous développons dans le tantra, peut changer votre vie du tout au tout. Mais vraiment du tout au tout. Parce que cesser la dépendance affective, ça change déjà beaucoup la vie. Être libre de dire oui ou de dire non parce que j'ai pas envie de dire non quand je pense oui, j'ai pas envie de dire oui quand je pense non, ça change aussi la vie. Parce que si je me sacrifie, je dis oui alors que dedans ça dit pas question, alors je commence à subir des choses. Et là c'est la grosse bagarre à l'intérieur. Et le gros, le mal-être, parce que vous faites exactement l'opposé de ce que vous avez envie de faire. Donc, on apprend l'égoïsme positif, on apprend le moi d'abord, parce que la société ne nous l'apprend pas. C'est quelque chose qui dit, donne, 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 même si tu es vide, si tu es vidé, continue à donner, continue, sacrifie-toi. Toi, tu n'es pas important, et les autres ont toute l'importance. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais pas plus importants que la relation que nous avons avec nous-mêmes. Parce que si nous négligeons la relation avec nous-mêmes, alors les autres ne peuvent rien recevoir. Je l'ai dit un certain nombre de fois ce soir. Le bonheur commence par vous-même et ensuite rayonne par couche tout autour de vous pour contaminer les autres. Mais ça ne va pas dans l'autre sens. Hein. Ça ne va pas, je m'occupe des autres pour être heureux. Je m'occupe de moi et ensuite les autres pourront avoir envie de faire comme moi. Hein. Ce n'est même pas moi qui les rendrai heureux, c'est moi qui leur donnerai envie de s'occuper d'eux-mêmes. Chacun fait exactement la même chose. Il s'occupe de soi-même. Imaginez que tout le monde, toute la planète, tous les 7 milliards d'humains s'occupent seulement de ce qui leur fait du bien. Il n'y a plus aucune guerre à la seconde même. C'est terminé. Parce qu'il n'y a plus aucun manque. La guerre, c'est simplement tu m'as piqué mon territoire, je te repique ce territoire, c'est... Le manque, hein, c'est le manque, c'est l'agressivité, c'est la violence. Tout ça, ça ne peut pas s'exprimer quand j'ai trouvé ma connexion à mon propre amour de moi-même. Et les pays se comportent comme les individus. Ils vont à l'extérieur pour chercher quelque chose qu'ils pourraient développer à l'intérieur. Hein. On peut être petit comme le Liechtenstein ou le Bhoutan et avoir une population super heureuse. Et on peut être grand comme les États-Unis ou la Russie et avoir que des dépressifs. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait une guerre que ça résout les problèmes. Petite respiration d'une minute. S'il y a des questions.
Parler de méditation active et leur champ d'action.
Oui, donc les méditations actives et leur champ d'action, alors c'est une très bonne question parce que la méditation active fait partie du tantra, c'est une branche du tantra. Elle a été inventée par Osho. Osho, c'est un indien qui est mort aujourd'hui et qui a... adapter le tantra pour la société occidentale. Ces 112 préceptes-là, on ne les pratique pas directement parce que c'est un peu difficile. C'est quelque chose de tellement individuel que ce n'est pas évident de le faire en groupe. Mais on le fait quand même un petit peu. Par contre, la méditation active, c'est en individuel. D'ailleurs, ça se passe ici tous les mercredis. Hein. Vous êtes les bienvenus, sans inscription. La méditation active, c'est une manière de nettoyer les émotions et de libérer l'esprit. Donc ça rejoint le tantra dans cet aspect-là. En bougeant le corps sur des phases actives. Par exemple, il peut y avoir une méditation active où on va respirer intensivement. Hein, on va faire... Voilà. On va faire ça pendant un certain nombre de minutes. Au bout d'un moment, ben, les émotions peuvent devenir plus... en circulation, peuvent s'exprimer, peuvent circuler et puis se nettoyer. Hein. Donc on le fait de cette manière. Et à la fin de la méditation active, généralement, il y a un quart d'heure de silence pour intégrer les bénéfices parce qu'il y a du nettoyage, ça vibre et tout. On s'assoit et on récolte le bénéfice. Mais c'est une forme de tantra qui n'implique pas d'interaction avec les autres. Il n'y a jamais... fait si avec lui. Hein. C'est toujours individuel.
Dans ce que tu proposes, il y a chakra pressing, il y a la méditation dynamique d'eau chaude.
Alors, quelle méditation je propose? J'en propose 14. Mais il n'y a pas la dynamique parce qu'elle ne se fait pas le soir. Je propose des choses le soir. En vérité, c'est 14 moyens différents pour atteindre le même but. Peu importe la méditation, c'est un grand éventail. Mais c'est comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Ces méditations ont toutes le même but, c'est de vous recentrer, de faire de vous des gens plus autonomes, plus libres, plus aimants, exactement comme le tantra. Donc, si vous pratiquez la méditation active pendant un an, vous aurez certainement des grands bénéfices en termes de conscience, mais si vous pratiquez le tantra pendant un an, ça irait certainement plus vite. Parce que, comme les enjeux de oser et pas oser sont plus forts dans le tantra, alors la liberté grandit plus vite hein, que quand vous le faites seul à seul. Seul à seul, c'est par exemple, je suis rempli de chagrin ou je suis rempli de colère. Alors, je viens secouer un peu tout ça et je me nettoie et c'est fabuleux parce que je peux ressortir avec le sourire. Il y a des gens qui viennent hyper fatigués au groupe de méditation active et qui ressortent en pleine forme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait bouger l'énergie. C'est l'énergie qui stagne qui est difficile. Parfois, dans les groupes de tantra, je fais pratiquer de la méditation active parce qu'on s'occupe de l'énergie dans le tantra. Ça a répondu à la question ?
Et donc, le mercredi, tu proposes les 14
Chaque mercredi, est-ce que je propose toute la gamme ? Oui, parce que chaque mercredi, c'est une autre, jusqu'à ce que les 14 aient été proposés. Et après, on recommence. Un cycle. 14 semaines, en fait. Hein ? Il y a parfois des mercredis où ça n'a pas lieu, ou des mercredis qui se passent à Romainville, parce que la salle ici est prise. Mais 90% du temps, c'est là, le mercredi, et il y a un calendrier sur Internet. Et si la date est citée, on peut venir sans s'inscrire, sans téléphoner, pour vérifier que ça a bien lieu, mais la plupart du temps, c'est bien ici. Quand on fait la méditation active à Romainville et qu'il y a de la colère, on a le droit de crier parce que c'est insonorisé. Ici, on ne peut pas le faire. Donc, il y a un petit avantage à être de l'autre côté, même si c'est un petit peu plus loin du métro. À condition qu'ils soient d'accord et à condition qu'ils soient accompagnés de leurs parents. Disons qu'en dessous de 18 ans, moi je ne peux pas prendre en charge un enfant mineur. Dans le tantra, c'est pas du tout possible, mais dans la méditation active, j'ai déjà eu des enfants de 8 ans, oui bien sûr, c'est possible. Mais il faut que l'enfant soit, qu'il ne soit pas tiré. Il faut qu'on lui dise ce que c'est, et qui disent qu'il est d'accord pour essayer. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Il faudrait que la personne choisisse le fait d'être là, l'enfant en question. C'est pareil, dans le tantra, si vous êtes en couple, vous pouvez être tenté d'amener votre conjoint ou votre conjointe. Parfois, ça ne se passe pas bien, parce qu'il y en a un qui est motivé et l'autre pas du tout. Donc, il faut laisser le libre arbitre à l'autre. Si vous le faites et que ça vous transforme et que l'autre vous voit et dit « Oh là là, j'ai envie d'y aller aussi », à ce moment-là, c'est sa motivation. Mais ne pas trop raconter, ne pas trop convaincre, parce que c'est vraiment une voie individuelle, même en couple, même quand on le fait avec le couple. Il reste 5 petites minutes si vous voulez poser des questions ou un complément d'information sur des choses. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas dites, hein.
Demain, il y a une séance à laquelle je participe qui est la respiration active. Je voudrais savoir ce que c'est en fait, comment ça va se passer.
Oui, alors je te l'expliquerai en privé parce que c'est pas assez séparé du tantra. Même si ça poursuit le même but, je te l'expliquerai en privé. C'est du rebirth. Le rebirth, c'est pas du tantra, mais ça participe aussi au nettoyage émotionnel et à l'expansion de la conscience. Toutes mes activités, il n'y en a pas une seule, dans tout ce que je fais ici, il n'y en a pas une seule qui ne s'adresse pas à l'expansion de la conscience. Mais le tantra, c'est la voie la plus radicale, celle qui va droit au but, celle qui est la plus puissante pour moi. Je vais terminer en vous racontant pourquoi j'enseigne le tantra, parce que c'est une histoire complètement spéciale. D'abord j'ai fait 7 ans de thérapie, j'ai fait de la respiration rebirth, j'ai nettoyé plein de blessures, ça c'était le avant. Après on m'a dit premier stage de tantra, est-ce que tu veux participer? J'ai dit oui. Premier stage de tantra, une femme m'a demandé, j'ai demandé à une femme, est-ce que tu veux faire l'exercice avec moi? Et elle m'a dit non. Alors je suis allé en voir une autre qui m'a dit oui, et j'ai fait l'exercice avec l'autre. Et quelques temps après, je ne saurais pas dire combien, il y a une phrase à l'intérieur de moi qui a dit « À vie, tu es libre. » Parce que le nom n'avait pas été une catastrophe, alors qu'avant, le nom aurait été catastrophique. Je me suis senti sans valeur ou rejeté. Et à partir de ce moment-là, j'ai basculé dans une expansion de conscience qui a été une extase, un sentiment extrêmement agréable, qui a duré 3 mois. Et dans ma tête, il y avait toujours « tout est possible ». Et ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. J'ai vu la vie complètement différemment. Mon féminin s'est développé, mais en un seul jour. C'est ouvert complètement en un seul jour. Bref, j'ai vécu une expansion de conscience énorme qui a duré 3 mois parce qu'une femme m'a dit non et que j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus libre que je ne le pensais. Donc, ce que moi j'ai tiré de cette extase, c'est j'ai vu mon féminin et mon masculin se déployer, être complémentaires et que c'était extrêmement agréable et que c'était une énergie, mais c'était extrêmement... Je voyais la vie en rose pendant 3 mois, hein, je ne vous raconte pas de bêtises. Je me disais, tout est possible. Je envisageais que chaque chose à laquelle je pense est possible. Et donc j'en ai tiré la conclusion que l'univers m'a fait expérimenter la fusion du masculin et du féminin pour me dire, voilà ce que c'est que le tantra, et donc mets-toi au service du tantra et enseigne le tantra, parce que tu l'as vécu, maintenant tu peux en parler. Voilà, c'est ça mon expérience. Et donc j'ai commencé à enseigner le tantra directement après ce premier stage, sans jamais faire de formation. J'en ai fait après, mais peut-être 2-3 ans après, pour vérifier si je me trompais ou si je... Mais ça collait bien avec... Donc voilà, quand on vous dit non, c'est pas toujours négatif. Ça peut être extrêmement intéressant de voir ça, de voir le positif. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. On va faire une pause de 15-20 minutes pour boire, manger. Puis après, on fera un exercice en grand groupe. Et puis pendant la pause, je peux continuer à répondre aux questions. Mais ça sera hors micro. Donc je dis au revoir à tous ceux qui nous écoutent sur Internet.